Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire du sport dans la fabrique de l'histoire. Après la lutte grecque antique lundi, l'escrime hier, aujourd'hui le football et l'histoire des équipes nationales. Nous débuterons cette émission avec une balade radiophonique dans l'exposition Le Foot, une affaire d'État aux Archives nationales, une balade menée par Victor Massé de l'Épinay, qui est avec nous aujourd'hui, et avec Laurent Vessière, qui est le commissaire de cette exposition. Et puis ensuite, Julien Sorez, qui est historien, et Paul Dietschy, historien également, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Nous présenterons leurs travaux respectifs sur le patriotisme, le nationalisme dans ce sport, comment se sont inventées les équipes nationales, comment et quand a-t-on qualifié les jeux nationaux, par exemple la Furia Francese d'un côté ou le Catenaccio italien de l'autre. Qu'attend-on d'une équipe nationale? Comment le foot national a-t-il tenu face à la globalisation de ce jeu? C'est ce que nous verrons avec eux dans la deuxième partie de cette émission. Bonjour Julien Sorez, merci Bonjour. D'être avec nous, on vous entendra dans la deuxième partie de cette émission, ainsi que Paul Dietschy. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Besançon, que nous remercions de vous accueillir, et bonjour à vous Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Alors, ça n'est pas évident effectivement de se placer dans cette position, de réfléchir à la question du rapport du football et de la nation, puisque... C'est ce que raconte le reportage qu'on va entendre dans un instant, que vous avez fait donc avec Laurent Vessière dans cette exposition Le Foot et une affaire d'État. Ça n'était pas gagné d'avance que cette question nationale soit liée à ce nouveau jeu qui naissait à la fin du 19e siècle. C'est ce qu'il va raconter.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il va raconter. Le football, ce qui est intéressant, c'est que c'est né en Angleterre, mais que c'est finalement le premier paradoxe de la France, c'est que la France ne s'est pas intéressée beaucoup au jeu, mais qu'en revanche, on va l'entendre au début de ce reportage, ce sont des Français qui ont créé les grandes institutions, que ce soit la FIFA, l'UEFA, et les grandes compétitions internationales.
On écoute donc ce reportage pendant une vingtaine de minutes et puis on retrouve nos deux invités, donc Julien Sorez et Paul Dietschy, dans la deuxième partie de cette émission à partir de 9h30.
Avant de parler des grandes compétitions, on a fait une petite introduction évoquant le rôle des Français dans l'organisation du football mondial, puisque vous connaissez tous la fameuse sentence d'Éric Cantona. Les Anglais ont inventé le football, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. Donc nous aussi, on a voulu montrer que les Français avaient organisé le football, d'une part avec Robert Guérin, qui était journaliste et qui a été le fondateur de la FIFA en 1904 et son premier président pendant 2 années. Et puis ensuite, Jules Rimet et Henri Delaunay, qui ont été à la fois de grands acteurs du football international. Rimet a été président de la FIFA de 1921 à 1954, c'est donc une présidence très longue. Tous les deux ont été vraiment ceux qui ont pensé la Coupe du Monde. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de réévaluer les rôles de chacun, parce que jusqu'à présent, c'était Jules Rimet, le père de la Coupe du Monde. Et là, les historiens spécialistes du football réévaluent le rôle fondamental d'Henri Delaunay dans la création de cette Coupe du Monde. Et surtout, lui, Henri Delaunay, par contre, a la paternité, clairement, de l'Euro, ce qu'on appelle l'Euro aujourd'hui, mais qui était d'abord la Coupe d'Europe, puis le Championnat d'Europe des Nations. Et alors donc pour évoquer en partie cette personnalité assez étonnante de Jules Rimet, hein, puisque il a donc cette particularité d'être président de la FIFA, mais en même temps président de la Fédération française de football. Et c'est un ancien poilu qui a traversé la guerre, qui a eu la chance de s'en sortir et qui, comme beaucoup de poilus, revient dans un esprit totalement pacifiste et convaincu que le football, comme d'autres sports, mais le football en particulier, peut être un facteur de rapprochement des peuples. Et donc en 1939, pour revenir sur les documents que nous présentons, la guerre vient d'être déclarée et en octobre, lui, il a une réunion avec ses collègues allemands, donc il s'y rend tout simplement, il continue de travailler pour les instances internationales du football. Et évidemment, le ministère de l'Intérieur s'en émeut. On l'accuse pas de traîtrise, mais on s'inquiète évidemment de ses relations. Donc il va écrire une très belle lettre, non pas en tête Fédération française, mais en tête Fédération internationale, où il explique pourquoi il est allé en Suisse rencontrer ses homologues allemands, qui d'ailleurs, à aucun moment, ils n'ont parlé de politique, mais uniquement d'organisation de compétition, encore une fois. Et à la fin, ce que j'aime beaucoup dans cette lettre de réponse, c'est que au lieu de signer Jules Rimet, président de la FIFA, il signe Jules Rimet, croix de guerre, 3 citations, pour rappeler que justement, il était un de ces héros poilus de la Première Guerre mondiale et que laisser sous-entendre qu'il aurait pu pactiser avec l'ennemi, c'était absolument inconcevable pour lui. Encore une fois, lui qui était à la fois apolitique, convaincu de ce facteur de rapprochement des peuples et héros de la Première Guerre.
Ça devait arriver. Sarrosy a marqué un deuxième but pour les...
Alors cette Coupe du Monde 1938, c'est donc la troisième, la première organisée en France. On peut rappeler que la première a eu lieu en 1930 en Uruguay, c'est l'Uruguay qui l'a remportée. La deuxième en 1934, l'Italie fasciste, et c'est l'Italie qui gagne. En 1938, c'est en France, et pour la première fois, le pays organisateur ne va pas gagner, puisque c'est encore l'Italie qui gagne. Alors qu'est-ce que vous avez choisi de présenter comme archive de cette Coupe du Monde 1938?
Donc la Coupe du Monde 1938, je pense que c'est la Coupe du Monde préférée des historiens, puisque c'est celle où il y a le plus de choses à dire, aussi bien d'un point de vue football que d'un point de vue politique, au niveau national et international, parce que c'est aussi le Front Populaire en France, c'est les tensions internationales qu'on connaît, c'est l'Anschluss qui vient d'avoir lieu, et puis d'un point de vue football, on a une équipe italienne qui clairement survole un peu le niveau européen. Après la disparition de la Wunderteam autrichienne, due à l'Anschluss justement, l'équipe autrichienne est pillée par l'équipe allemande, l'équipe nazie, et les deux styles d'ailleurs, le style allemand basé sur la puissance et le style autrichien plutôt sur un style de jeu assez virevoltant, ne vont pas du tout se marier, et l'équipe d'Allemagne nazie sera éliminée par la Suisse dès le premier tour. Quand on parle de l'Italie, évidemment, on pense à deux matchs. C'est les deux premiers matchs. Hein. C'est le premier match qui a lieu à Marseille, où en tribune, ce sont surtout les réfugiés antifascistes italiens qui vont accueillir l'équipe d'Italie. Donc ils vont être hués par une grande partie du public et ils vont laisser mal le vivre, ce qui est assez logique. Et puis c'est surtout le match contre la France qui a lieu au stade de Colombes, où l'équipe d'Italie se présente en noir, donc couleur des chemises fascistes. Et font un rituel, par contre, qui n'est pas du tout nouveau, puisqu'ils le faisaient dès le début des années 30, et en particulier à la Coupe du Monde 34, c'est le salut fasciste lors des présentations des équipes, ce qui va susciter la colère des tribunes. Ça, on a un journaliste de l'Auto qui explique bien la scène, où les Français, des populaires, donc les virages, jettent des cailloux sur le filet italien, sur le but italien. Donc c'est beaucoup de choses, hein. C'est un ensemble d'événements politiques, et puis c'est aussi certains documents que nous montrons, comme par exemple la revue de la Coupe du Monde de football 1938, qui renvoie un peu à l'introduction de l'exposition sur les affiches. Dès le début, les Coupes du Monde sont à la fois conçues comme un événement sportif, mais aussi comme un événement économique. C'est d'ailleurs pour ça que Jules Rimet et Henri Delaunay se sont battus pour que la Coupe du Monde 38 ait lieu en France, au moment où le Front Populaire a du mal à redresser l'économie du pays. Donc ils vont proposer au Front Populaire l'organisation de la Coupe du Monde, pensant que l'État français va s'approprier cet événement, ce qui ne va pas du tout être le cas, puisque la conception du sport par le Front Populaire est la conception du sport ouvrier, donc c'est du sport pour chacun, pour tous, plutôt au grand air, etc. Et en aucun cas du sport-spectacle, ce qui est déjà la Coupe du Monde dans cette édition de 38.
Donc l'État ne s'investit pas énormément, il ne s'investit pas beaucoup plus en 1960. C'est la première, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Euro, qui est organisé en France. Et sur cette compétition, vous présentez pas grand-chose, puisque en fait l'État s'en est très peu occupé.
Alors d'abord, on n'a pas retrouvé vraiment d'archives sur le sujet, ce qui montre que justement l'État ne s'en est pas vraiment occupé. C'est une phase finale qui se déroule en pleine guerre froide, avec un boycott considérable des pays d'Europe de l'Ouest, d'Europe occidentale. Il y a peu d'engouement finalement populaire, il suffit de voir les influences également lors de ces quatre matchs, parce qu'il n'y a que quatre matchs lors de cette phase finale, et ce sont des influences très faibles. Cela va permettre, bon, à la Russie qui, enfin, l'URSS, pardon, je suis déjà en avance. L'URSS va remporter la compétition parce qu'elle possède aussi une équipe absolument exceptionnelle à l'époque et en raison aussi du boycott des autres équipes. Donc pas de présence de l'État. Et va falloir attendre finalement le renouveau du football français pour que l'État tout simplement s'intéresse, parce qu'il y a un engouement populaire et parce que probablement déjà on envisage des retombées économiques en cas d'organisation de compétition, ou tout simplement parce que les gens, on le sait, dès les années 60, fin des années 70, début des années 80, ça suscite une consommation plus importante, ça suscite des gens plus heureux, on l'a vu à la Coupe du Monde 98, il y a réellement une transformation temporaire du comportement des gens. Et donc le monde politique ne peut pas y échapper.
Donc dans les années 70, pour le football de club, on a en particulier l'épopée des Verts. En 82, on a la grande équipe de France qui perd sa demi-finale épique à Séville. Et finalement, donc en 84, quand la France organise l'Euro, prend ce projet à bras-le-corps et s'investit vraiment dans cette organisation.
Oui, il y a une présence de l'État plus grande. Je dirais qu'il y a une présence de l'État qui va correspondre un peu à ce qu'on va retrouver en 98, Alors, non pas sur l'organisation, puisqu'en 98, l'État est omniprésent du début jusqu'à la fin, mais plutôt de participation aussi du monde politique. Au fur et à mesure que les résultats sont là, le monde politique, bah, évidemment, est là aussi de plus en plus. Donc, en 84, c'est tout à fait ça. Et puis, on a ces images merveilleuses de la finale. Pour la première fois, c'est le président de la République qui remet, avec le président de l'UEFA, le trophée qui s'appelle le trophée Henri Delaunay, en mémoire d'Henri Delaunay dont on parlait au début de cette balade. Le président de la République est là, mais également au deuxième rang, on voit un certain nombre de membres du gouvernement, Edwige Javis, Roland Dumas, Jacques Delors, et au premier rang, ben, Jacques Chirac, qui est là en tant que maire de Paris, et qu'on retrouvera évidemment sur les images de 98 dans une autre fonction, et aussi un autre comportement, puisque là il est assez sage. Voilà, donc ce sont des images, oui, donc qui ont la fameuse image d'ailleurs de l'accueil, non pas de la remise du trophée, mais de l'accueil qui sert également d'affiche de l'exposition, est assez célèbre. Platini est de dos, et on a ce François Mitterrand souriant, accueillant Platini dans la corbeille du Parc des Princes. Mais 84, oui, c'est la naissance en Europe, je dirais, parce que même... On l'a vu quand même en 82 avec la Coupe du Monde en Espagne déjà, mais on voit bien qu'il y a un changement complet de philosophie, d'organisation. Ce sont aussi de grands événements économiques où on fait venir des touristes du monde entier.
Donc Laurent Vessière, on va passer assez rapidement sur 98, simplement peut-être l'aborder sous l'angle du grand stade, puisque 98 c'est le Stade de France, et que toute la deuxième partie de l'exposition... dans laquelle nous sommes, le foot, une affaire d'État, est consacré aux projets architecturaux, l'État bâtisseur, l'État qui a construit des stades. On a ici, par exemple, une série de documents qui montrent que cette idée du grand stade, ou du Stade de France, puisqu'il est déjà nommé comme ça dès les années 30, est quelque chose qui traverse le siècle.
Oui, ça traverse le siècle. Alors, donc, on a traité cette question avant tout sous à la fois la question du Grand Stade et les stades d'Île-de-France. Hein, parce qu'encore une fois, de toute façon, on ne concevait pas la construction d'un Grand Stade en dehors de l'Île-de-France et même à Paris même. En Île-de-France, il y a deux stades, le Parc des Princes et Colombes, qui connaissent des histoires assez parallèles et qui vont être agrandis progressivement au fur et à mesure des compétitions qu'on vient d'évoquer, mais jamais vu comme la fameuse question du Grand Stade qui naît en 1922 pour les Jeux Olympiques de 1924 qui ont été attribués à la France. La question apparaît à ce moment-là, faut-il un Grand Stade ? La réponse est plutôt oui. Des concours vont être lancés, des architectes retenus, des études assez grandioses, mais le Parlement va refuser le vote tout simplement du budget, et donc on abandonne. Bis repetita en 36-38, on présente justement les documents parce que ce sont ceux qui sont intéressants aussi sous le Front populaire. Plusieurs projets de grands stades de Paris ou déjà de stades de France sont proposés au Front populaire et le Front populaire va refuser. Et on a ce document qui est probablement mon préféré de l'exposition, qui est une lettre de Henri Sellier, qui est le ministre de la Santé, à Léo Lagrange, qui est son sous-secrétaire d'État à l'organisation des loisirs et des sports. Je considère comme une hérésie monstrueuse la création d'un stade à l'intérieur de Paris. Pourquoi ? Parce que ça s'oppose complètement à l'idée de ce que se fait le Front populaire de la pratique du sport, qui doit être avant tout une pratique de masse. C'est un peu basé donc sur la pratique ouvrière du football telle qu'elle était conçue autour des usines. Hein. Et on pense aussi aux clubs de foot là, de Sochaux, de Lens, de Saint-Etienne, qui sont des clubs très populaires, ouvriers.
Ou du Red Star
en Ile-de-France, bien sûr. Et donc le Front populaire abandonne l'idée du stade de 100 000 places. Et donc à chaque fois, 1924, 1938, ben, on agrandit le Parc des Princes, on agrandit Colombes, parce que quand même, il faut faire quelque chose. Et entre 1956 et 1965, le processus se remet en place. Cette fois-ci, l'État se rallie à l'idée de construire ce stade. On fait le concours d'architecte. C'est Henri Bernard qui remporte le concours. Le 22 février 65, ça y est, on se dit, c'est parti. Trois jours plus tard, le gouvernement annule la procédure. Malraux s'est plaint, il veut classer le bois de Vincennes. Général de Gaulle cède à son ministre Malraux. Et hop, et on recommencera dans les années 80 avec l'idée des Jeux Olympiques, mais c'est Barcelone qui sera choisi. Donc, ah bon. Et il faut finalement la candidature de la France à la Coupe du Monde 98 pour que l'idée revienne une nouvelle fois, mais cette fois-ci, elle va aller jusqu'à son terme grâce à l'attribution de la Coupe du Monde, hein, et ensuite il faut absolument un stade, puisque ça peut pas être le Parc des Princes avec ses 45 000 places qui peut accueillir la compétition en Ile-de-France et en particulier la finale, et le stade de Colombes qui à l'époque n'accueille plus qu'à peine 10 000 personnes.
Alors on arrive, Laurent Vessière, dans cette troisième partie de l'exposition qui s'appelle « Le football, reflet des tensions nationales ». Ici, vous présentez certains événements qui montrent que ces questions ne sont pas neuves, qu'elles se sont toujours posées. Et ça commence avec un match, enfin ça commence à la Première Guerre mondiale, mais je voudrais surtout m'arrêter sur la Seconde et un match de 1942 à Séville.
Vichy en fait interdit les rencontres internationales. Il n'y aura que deux rencontres internationales qui vont avoir lieu en mars 1942, dont ce fameux match que vous citez contre l'équipe nationale d'Espagne. Une délégation se met en place, mais auparavant, ce qui est assez amusant, c'est que, enfin amusant, pardonnez-moi le terme, c'est que l'ambassadeur de France à Madrid, qui s'appelle François Pietri, qui est un collaborateur notoire, va écrire au Quai d'Orsay pour s'inquiéter de la composition de l'équipe nationale française en disant qu'il y a quand même beaucoup de noms un peu exotiques dans cette équipe et qu'il serait de bon ton d'épurer déjà l'équipe pour que le gouvernement espagnol ne soit pas ému de cette composition de l'équipe de France avec des noms d'origine étrangère.
Donc c'est la lettre qui est là. L'équipe que la Fédération de football s'apprêtait à envoyer éventuellement à Séville comprendrait entre autres joueurs Corani, Jordan, Aston et Aznar. Et plus loin, la sélection de Diagne lui-même doit être sujette à quelques réflexions.
Oui, ce qui est peut-être encore plus infect que le reste. Hein. Raoul Diagne, c'est le premier joueur de couleur à jouer en équipe nationale. Il est le fils d'un député, secrétaire d'État aux colonies. Hein. Son père est sénégalais, sa mère est guyanaise. C'est un joueur absolument exceptionnel qui va d'ailleurs avoir une très très belle carrière et qui jouera la Coupe du Monde 58. Oui, mais il faut épurer l'équipe de France et le Quai d'Orsay répond d'ailleurs oui, tout à fait. Nous allons veiller à ce que la fédération fasse un peu le ménage dans l'équipe nationale. Alors, finalement, il y a une moitié des joueurs qui sont cités qui vont être écartés de l'équipe et d'autres participeront quand même à ce match. Alors ce match se déroule dans un contexte assez classique de l'Espagne franquiste. Jules Rimet est de l'aventure puisqu'il est président de la Fédération française de football. Donc on le voit sur les photographies, il est à côté de Joseph Pasco qui n'est pas encore le commissaire général à l'éducation générale et au sport, c'est encore Borotra. Et donc on voit sur ces photos un Pasco souriant, un Pietri assez heureux de son coup avec l'organisation de ce match. Mais on voit donc par contre le pauvre Jules Rimet qui fait un peu la grimace sur toutes les photos. Et puis la photo que nous préférons tous ici, c'est cette photographie au moment des hymnes où tout le monde fait le salut franquiste, fasciste, nazi, comme vous voulez. Sauf Rimet, au bout de la rangée, qui a ses deux bras collés contre le corps avec une tête vraiment renfrognée. Et quelques jours après, en rentrant en France, il va se retirer. Non, il ne va pas démissionner, hein, il va se retirer de ses fonctions à la Fédération française qu'il reprendra à la Libération. Fidèle, toujours fidèle à sa conception apolitique du football.
Un autre épisode sur lequel vous nous présentez des documents dans cette exposition est intitulé « La défection des joueurs algériens ». Nous sommes en 58, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous montrez pour la raconter ?
Brièvement, en fait, c'est une opération qui avait été montée depuis quelques mois par le FLN. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1958, une dizaine de joueurs algériens quittent la France, s'enfuient de la France avec leurs épouses et leurs enfants, en passant par la Suisse, l'Italie, vont à Tunis et vont créer ce qu'on va appeler l'équipe du FLN, le 11 de la Libération, et qui va être l'embryon en fait de l'équipe nationale d'Algérie. Donc ça n'est pas une simple défection. J'ai fait attention au terme à utiliser parce que c'est pas une fuite, c'est clairement un engagement politique de ces joueurs qui là aussi faut bien mesurer qui ils étaient. Pour la plupart, ce sont des grands joueurs du championnat de France et de l'équipe de France, hein, comme Moustapha Zitouni, Rachid Mekloufi. Très rapidement, ils vont jouer des matchs contre d'autres pays du Maghreb, d'autres pays de la région, et puis ensuite une tournée en Asie du Sud-Est, une tournée en Europe de l'Est contre les pays communistes. C'est une équipe qui joue remarquablement au foot, dans laquelle on agrège des joueurs qui jouaient en Algérie. Ce sont des joueurs absolument fabuleux individuellement, collectivement, avec un jeu très séduisant. C'est une belle histoire aujourd'hui. Et puis j'ajouterais aussi, je trouve que c'est une anecdote qui est merveilleuse, c'est les autres joueurs de l'équipe de France qui viennent de perdre quelques jours avant la Coupe du Monde 58 leurs copains, en particulier Moustapha Zitouni, hein, qui est un des meilleurs défenseurs du monde. Et on aurait pu s'attendre à des joueurs très mécontents, ils vont faire au contraire des petits messages de sympathie à leurs copains, et l'aspect politique passe après. C'est d'abord des copains qu'on choisit, qu'on fait un choix, et ils leur écrivent des petits mots d'amitié.
Alors les autres joueurs de cette équipe de 58 que vous évoquez, c'est pour les plus connus, en particulier Raymond Coppa, Piantoni. Donc des noms, Coppa, son vrai nom, c'est
Kopaszewski.
Ce sont donc des enfants d'immigrés, polonais pour Coppa, italien pour Piantoni. Et c'est une partie importante de cette troisième partie de l'exposition, l'immigration au secours de l'équipe de France.
Oui, certains responsables politiques essaient de nous faire croire depuis 2 décennies que l'immigration dans l'équipe de France a débuté quasiment dans les années 90. Or, quand on s'intéresse un peu au football et puis à l'histoire, l'immigration est au secours de l'équipe de France depuis les années 20 et en particulier depuis les années 30. En particulier, une photographie que j'ai mise d'un match du 16 mars 1939. 7 joueurs sur 11 ne sont pas, comment dire, parce qu'il faut faire attention avec les termes qu'on utilise aujourd'hui. Certains diraient français de souche, ou d'autres diraient des vrais français. Non, c'est tout simplement, ont des origines, soit luxembourgeoises, autrichiennes, sénégalaises, anglaises, hongroises. Larbi Ben Barek, hein, qui restera marocain, il ne prendra jamais la nationalité française, alors que c'est lui qui a la carrière la plus longue en équipe de France entre 1938 et 1954. Le protectorat sur le Maroc lui permet de jouer en équipe de France en ayant la nationalité marocaine. L'immigration a toujours contribué à enrichir l'équipe de France de talents absolument merveilleux qui ont été les idoles des Français. Vous citiez Coppa, vous citiez Platini, évidemment. Dans cette vague de gens qui ne sont pas directement des immigrés, mais des enfants de deuxième ou de troisième génération. Et puis évidemment Zidane dans les années 90.
Vous avez choisi de terminer l'exposition en évoquant le football féminin.
Oui, bah ça aussi, c'était pour à la fois tordre le cou à une légende qui est fait pour certains qui pensent que le football féminin est né dans les années 90. Le véritable âge d'or du football, bien plus encore qu'aujourd'hui, ce sont les années 20, puisque le football féminin arrive en France en 1917, avec la création des premiers clubs, en particulier en Ile-de-France. On pense à l'En Avant, on pense au Fémina. 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale, les hommes ne sont pas là, les femmes s'approprient tout simplement l'économie, le sport. Il y a toute une série de rencontres en France et en Angleterre qui se déroulent. Et là, on ne peut pas s'empêcher de citer les chiffres de l'affluence. 25 000 personnes assistent à un match en Angleterre, 12 000 en France, quand on sait aujourd'hui les affluences des matchs de l'équipe, des équipes féminines, même de clubs, hein, Lyon ou le Paris Saint-Germain, pour citer les deux clubs en ce moment phares du championnat. Charletti, c'est 3 000 personnes maximum. 1920, 12 000 Français viennent voir du football féminin. Et puis après, les hommes rentrent. Et comme dans tous les autres secteurs, les hommes vont dire, mais mesdames, il faut retourner au foyer. Ça suffit, maintenant la blague a assez duré. Alors que on présente la une du Petit Journal Illustré, la une du Miroir. Hein. Donc ce sont ces femmes en short qui jouent. Ça ne choque personne en 1917-1925. Et quand les hommes reviennent, là par contre, progressivement, et puis surtout au milieu des années 20, jusqu'à la fin des années 20, il y a de grandes campagnes de certains journalistes hein, qui demandent à ce que ces femmes rentrent à la maison. Et fin des années 20, début des années 30, c'est la fin du football féminin parce qu'il n'y a plus de pratiquantes. Et puis 1941, c'est l'interdiction pure et simple par Vichy du football féminin.
Laurent Vessière, cette exposition, donc, je rappelle que nous sommes à Pierrefitte, pas très loin du Stade de France. Vous attendez une affluence à partir du 10 juin ?
Oui, bah on espère. On a mis en place en tout cas des dispositifs avec les collectivités locales hein, du département, de la ville de Saint-Denis, de la pleine commune, etc. pour faire venir les supporters qui se rendront au Stade de France ou qui seront sur la fan zone. C'est de venir quelques instants découvrir l'histoire du sport qu'ils aiment avant de se rendre au Stade de France. D'assister au match, mais oui, il faut venir ici à Pierrefitte, c'est juste à deux stations du Stade de France.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
9h30 sur France Culture, nous poursuivons notre émission du jour dans la fabrique de l'histoire, dans notre série sur l'histoire du sport, en nous intéressant à la question du rapport du football, donc dans deux jours l'ouverture de l'Euro, du football avec la question du nationalisme, la question du patriotisme, avec donc Victor Massé-Dépinay qui a organisé la balade dans cette exposition aux Archives Nationales de Pierrefitte avec Laurent Vessière qu'on vient d'entendre, mais avec aussi nos deux invités de deuxième partie, Paul Dietschy, rebonjour. Paul Dietschy, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Vous avez été un des premiers à vous intéresser à cette question de l'histoire du football, à créer même un séminaire à Sciences Po avec votre collègue Patrick Clastre sur l'histoire du sport. C'était en 2004. Et d'une certaine façon, après Alfred Wahl, qui avait fait le même travail dans les années 80-90, eh bien, vous avez pris au sérieux cette question de l'histoire du sport et en particulier de l'histoire du football dans votre thèse que vous avez consacrée à l'histoire du football en Italie. Paul Dietschy, vous continuez donc avec ce gros livre que vous avez publié, qu'on peut trouver en édition Perrin Tempus, l'histoire du football. Il faut prendre au sérieux le football.
Oui, il faut le prendre au sérieux parce que d'abord c'est une sorte de miroir un peu déformant évidemment des sociétés mais aussi des relations internationales. C'était Jean-Baptiste Durosel qui dans son livre sur la politique étrangère, hein, la décadence, invitait les historiens à s'intéresser au sport parce qu'il y voyait un nouveau vecteur finalement du sentiment national et du nationalisme. En même temps, il y a un temps particulier qui est celui du sport et du football. C'est un temps éphémère, c'est une émotion qui peut être très forte, mais qui retombe évidemment aussi très vite. Donc il faut aussi se méfier d'interprétations qui seraient trop globalisantes.
Oui, Victor Massé-Dépinay.
Julien Sorez, on vient d'entendre dans cette balade la question de qui se termine, cette exposition à Pierrefitte se termine par une partie sur le football, reflet des tensions nationales. On a eu récemment, à quelques jours de cet Euro, cette question qui rejaillit un peu comme à chaque fois depuis maintenant quelques années. Vous êtes intéressé à ces débuts du football professionnel, ces débuts du football en France. Comment est-ce que cette question du rapport entre nation, football, identité s'est posée depuis le tout début en France, depuis le début du XXe siècle?
Alors, elle s'est posée assez tardivement, puisque le développement du football en France est quand même lié avant tout à une identité locale, à une identité de club, et pas à une identité nationale. Donc, ces problématiques nationales sont quand même assez tardives.
Tardives, c'est-à-dire?
Alors ça dépend un petit peu des pays, mais en France, l'équipe de France va véritablement prendre une dimension nationale avec la très forte médiatisation. Je pense que la fin des années 90 est quand même un moment important, même si on a des épopées qui peuvent être soulignées.
Suède 58.
Les années 50. Bon, après, il y a quand même une grosse traversée du désert. Il y a peut-être aussi les années 80 avec la génération Platini. Mais la très forte médiatisation du football et tous les enjeux qu'on va y placer derrière sont quand même assez tardifs. Mais c'est pas un phénomène proprement français. On constate que les sélections nationales ont vraiment attiré l'attention dans la deuxième moitié du XXe siècle.
C'est-à-dire que, oui, c'est le cas de la RFA, par exemple, en 1954.
De l'Angleterre aussi.
De l'Angleterre, dans les années 60, en particulier avec la Coupe du Monde en 66, c'est ça, en Angleterre. Mais tout de même, il y a des pays qui ont été peut-être plus précoces, Paul Yetchi, que ces pays européens-là, pour pouvoir justement imaginer la fusion forcée ou naturelle entre l'équipe nationale, oui, et le pays et le nationalisme de ce pays-là, en particulier les pays totalitaires ou autoritaires de l'entre-deux-guerres.
Tout à fait, je me permettrai de nuancer un peu les propos de mon cher collègue Julien. D'abord, la question nationale s'invite très tôt dans le football, dès les années 1870, puisque c'est la date des premiers matchs entre l'Angleterre et l'Écosse. Et l'un des succès, justement, de ces matchs, c'est que les Écossais peuvent prendre une revanche symbolique, évidemment, sur les Anglais. Et on s'aperçoit que les affluences sont extrêmement importantes à Glasgow ou à Édimbourg. Et dès le début du XXe siècle, il y a quand même une réflexion sur le style national, y compris en France, dans la presse sportive française. Il y a l'idée qu'une équipe nationale doit refléter des vertus. Alors ça se renforce évidemment dans l'entre-deux-guerres, dans différentes configurations. Ça peut être celle des pays neufs. Par exemple, en Uruguay, dans les années 20, en 1930, l'équipe nationale à Céleste joue un rôle très important dans l'amalgame d'une population largement immigrée et dans la création d'un mythe national. Et puis, bien évidemment, le football est aussi au service des États totalitaires. En Italie, même s'il est concurrencé un petit peu par le cyclisme, mais il est clair, évidemment, qu'il participe de la construction d'une mythologie nationale dans des grands stades qui ont été construits par le fascisme. Donc, ça intervient très tôt. Sinon, évidemment, qu'il n'y a pas la puissance médiatique qu'est aujourd'hui celle de la télévision.
Oui. Alors tout de même, cette question, vous l'avez mentionné, la naissance des styles nationaux est une question intéressante, c'est-à-dire qu'on va définir, vous venez de le dire, Paul Yetchi, des vertus à telle ou telle équipe, des vertus soit d'offensive, soit des vertus de défensive, soit des capacités de courage, soit des capacités de rapidité, qui sont censées représenter le pays soi-même, comment et qui sont les théoriciens de ces naissances de styles nationaux? Est-ce que ce sont les entraîneurs eux-mêmes, les joueurs eux-mêmes, les responsables des fédérations nationales, ou est-ce que ce sont les journalistes qui, rendant compte de cette question-là, vont inventer ces styles nationaux?
Alors, il y a un échange, en fait. Ce sont évidemment les journalistes qui formalisent tout ça, hein, qui idéalisent ces styles nationaux. Par exemple, aux Jeux Olympiques de 1920, l'équipe d'Espagne aurait pratiqué un style qui est appelé la furia española, sur le modèle de la furia française de la fin du XVe siècle. Et c'est une expression qui est trouvée par Henri Desgranges,
Le patron de l'auto et du sport.
Tout à fait. Et ensuite, qui est diffusé, alors c'est intéressant du point de vue de la circulation, des représentations, qui est diffusé en Espagne, notamment par un journaliste qui s'appelle, dont le pseudonyme s'appelle Juan Deportista, et qui publie plusieurs livres sur ce thème. Donc les journalistes, évidemment, sont extrêmement importants. En même temps, eh bien, le style de jeu, évidemment, qui est adopté, qui est forgé, contribue, évidemment, à cela. Par exemple, dans les années 30, on parle du verrou suisse pour le style de l'équipe nationale helvétique. Un jeu très hermétique, bon, qui rendrait compte évidemment des coffres forts,
des montagnes,
coffres forts, tout à fait, et qui par ailleurs d'ailleurs est mise en place par un entraîneur autrichien nazi, et qui évidemment il y a une sorte de correspondance entre ce style hermétique et puis l'image de forteresse qui est celle de la Suisse. Donc il y a ce va-et-vient finalement entre les deux. Le seul pays finalement jusque à la fin des années 50 qui n'a pas de véritable signe national, c'est la France, parce que l'équipe nationale a des performances assez médiocres et un style de jeu difficile à définir.
Oui, sur ce point, Julien Sorez.
Effectivement, la France a un cas assez spécifique, puisqu'elle est tiraillée entre deux modèles. Le jeu latin, donc qui est un jeu plutôt de passes courtes, de dribbles, et le jeu britannique, qui est quand même le jeu des maîtres. Et on voit bien comment la France essaye de se trouver un style de jeu, mais tiraillé peut-être entre une influence latine vers le sud-est et une influence britannique en région parisienne vers le nord, elle a du mal, et on voit bien que c'est un enjeu identitaire fort, cette question de l'identité de jeu.
Oui, et puis on l'a vu dans la balade aux Archives nationales avec Laurent Vessière, cette question d'une identité nationale dans le jeu pose aussi la question de l'apport ou non de joueurs étrangers, puisque au début du XXe siècle, l'équipe nationale, c'était une équipe de joueurs jouant en France, avant que ce soit vraiment lié à l'identité. Mais la question des joueurs des colonies, la question des joueurs étrangers, même naturalisés, il y a eu des cas de Hongrois, de Suisses, de Luxembourgeois, pose aussi cette question d'une identité de jeu qu'on aurait du mal à trouver en France.
Oui, allez-y, Julien Sorez.
Oui, sans doute. Maintenant, la question, alors la question de l'identité de jeu, pardon, par rapport à des joueurs qui viendraient, par exemple, des anciennes colonies ou des colonies même. On peut penser à Raoul Diagne. Elle est quand même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il, assez mineure, bien qu'elle marque quand même certains stéréotypes. Par exemple, Raoul Diagne est souvent montré pour ses qualités athlétiques, pour sa taille. Donc il y a effectivement des stéréotypes qui sont pas forcément des stéréotypes très valorisants. On a Larbi Ben Barek aussi à la fin des années 30. Mais il faut voir, par exemple, sur le cas de Ben Barek, qu'il y a certains stigmates de l'image et des stéréotypes que l'on attribue à ces individus. Ben Barek est à la fois vu comme un joueur très technique, lumineux, et en même temps un petit peu capricieux, fragile. Donc, il y a cette dimension-là, sans doute.
Oui, parce que Paul Dietschy, la difficulté, c'est de forger l'identité d'une équipe nationale. C'est-à-dire de dire, avec des individus qui viennent d'un peu partout, soit géographiquement, soit même sur le territoire national, de dire, eh bien, il y a une équipe qui va être cohérente et qui va avoir un style de jeu cohérent face à d'autres équipes nationales.
Oui, c'est le propre d'ailleurs d'une équipe nationale. On ne réunit pas forcément les meilleurs joueurs, on réunit les joueurs qui vont pouvoir jouer ensemble et faire un ensemble cohérent. Alors, c'est quelque chose qui est réalisable dans certaines conditions. Par exemple, l'un des succès de l'équipe d'Italie dans les années 1930, c'est d'avoir un commissario unico qui s'appelle Vittorio Pozzo et qui applique des méthodes assez musclées, une discipline de fer, constitue un groupe relativement resserré, donc des joueurs qui progressivement prennent l'habitude de jouer ensemble autour d'un schéma tactique déjà très défensif et qui vise avant tout l'efficacité. Il y a un autre effet qui peut aussi entrer en ligne de compte, c'est l'effet génération. C'est-à-dire que les équipes nationales sont quand même très largement tributaires de l'éclosion de talents. L'équipe de France en 1958, par exemple, si elle est si brillante, c'est qu'elle rencontre d'un championnat de France qui est voué à l'offensive, avec de très belles équipes, comme l'OGC Nice, évidemment, et le Stade de Reims, et l'éclosion de joueurs offensifs, jouant un peu dans le même esprit, souvent d'ailleurs un club sert de matrice en quelque sorte à l'équipe nationale, le Stade de Reims par exemple pour l'équipe de France en 1958. Donc il y a ces deux possibilités, vous voyez, à la fois l'entraîneur évidemment qui a constitué le groupe, et puis le club, l'éclosion d'une génération qui permet finalement de créer une identité de jeu que l'on interprète évidemment a posteriori, par exemple comme le football champagne pour le football français dans les années 50.
Oui, parce que tout de même, Julien Sorez, au départ il y a des conflits liés à la question confessionnelle au tout départ de la naissance des équipes de foot en France, des équipes catholiques, des équipes laïques, des équipes ouvrières, etc., des équipes patronales, et donc toutes ces tendances là sont des tendances qui sont conflictuelles, et il va falloir essayer de gommer ces questions de conflit au départ entre ces équipes qui forment les jeunes pour faire une équipe nationale qui transcende ou qui dépasse justement ces questions sociales, ces questions religieuses, etc., etc.
Oui, encore que quand on observe d'un peu près ce qui se passe réellement dans les relations, par exemple, entre les institutions, il n'y a pas une guerre de tranchées autour de la question de la laïcité, des patronages catholiques. Il y a de nombreux joueurs de patronage catholique, par exemple, qui partent dans les clubs, alors qui sont pas forcément affichés comme laïcs, qui se veulent neutres, donc qui sont fondés sur la pratique, sur l'amélioration technique. Donc il n'y a pas une rivalité extrême, me semble-t-il, et il y a des circulations, il y a des rencontres qui s'opèrent, et dans les comptes rendus de match, il est très peu fait allusion à une rivalité qui serait idéologique.
Sûrement, mais entre clubs créés par les patrons et clubs de la FSGT, la Fédération du Travail, par exemple, Sportive et Gymnique du Travail, sur laquelle a travaillé Nicolas Xis, par exemple, ça ne se passe pas toujours très bien.
Non, mais il faut aussi faire attention, parce que au-delà de cette polarisation d'une rivalité idéologique, on voit bien que il y a de nombreux ouvriers qui préfèrent jouer dans les clubs dénoncés comme bourgeois. Il y a de nombreux ouvriers qui vont travailler pour le, enfin qui vont en tout cas jouer pour le club patronal et pas pour le club syndical, parce qu'il y a des promotions de carrière. Mmh. Donc là aussi, il faut faire attention. Et puis, la FSGT, elle arrive quand même très tard. Ah. L'intérêt de la FSGT pour le football est quand même assez tardif, alors que le sport patronal se développe dès la fin du 19e siècle.
Paul Dietschy, puis une question de Victor Massé de l'Épine. Paul Dietschy.
Oui, sur cette question-là, sur la question confessionnelle, disons que...
Le dépassement de la question confessionnelle ou de la question sociale, pourrait-on dire, par ces équipes nationales qui vont fusionner tous ces gens-là dans une même équipe aussi.
Oui, alors, disons que ces équipes nationales, il peut y avoir différentes configurations. Si vous prenez l'Italie, bon, c'est évidemment la question d'associer des gens du Nord, du Sud, des cultures régionales qui sont extrêmement différentes. Ensuite, pour les équipes nationales, ça joue moins dans l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a une relative homogénéité sociale quand même de ces joueurs qui peuvent venir, soit, bon, quelques-uns viennent des classes moyennes, mais quand même beaucoup viennent des classes populaires. Donc assez rapidement, finalement, c'est pas de ce point de vue-là que le problème se pose. C'est plutôt aussi des questions de rivalité sportive entre clubs, de rivalité entre joueurs qui veulent occuper le même poste, etc.
Juste pour, sur l'identité confessionnelle aussi, on voit que très rapidement, il y a de nombreux patronages catholiques qui fournissent en France des joueurs pour le CFI. Et en Italie, on a aussi de nombreux joueurs de la sélection nationale qui sont issus des clubs de patronage. Donc il n'y a pas trop d'incompatibilité, me semble-t-il, entre l'adhésion, l'appartenance confessionnelle et l'appartenance nationale. Et au contraire, il y aurait peut-être même un lien assez intéressant.
Par le patriotisme, par exemple.
Par exemple, une manière de donner des gages dans une France sécularisée à l'allégeance nationale.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je voudrais parler un peu du rôle de la presse dans toutes ces constructions nationales. En France, on a aujourd'hui un seul grand quotidien sportif, mais c'est un peu une particularité en Europe, et ça n'a pas toujours été le cas non plus en France. Est-ce que dans les années 30, 40, 50, en France, mais peut-être ailleurs aussi, peut-être en Italie, Paul Dietschy, dans la presse, on trouve ces tensions, on trouve ces différentes lectures, ces différentes orientations de cette question de la construction nationale, de cette question d'une identité de jeu, d'une identité nationale à travers le sport.
Oui, Paul Dietschy.
Oui, alors tout à fait. Bon, si on prend le cas de l'Italie, par exemple, au début des années 30, vous avez une floraison de la presse sportive. Et la presse sportive est une sorte d'espace de liberté, finalement. D'espace de liberté un peu en même temps contraint, parce qu'on pose une question fondamentale du fascisme, qui est celle de l'identité de la nation. Et vous avez de grands débats entre périodiques romains. Par exemple, il y a un hebdomadaire qui s'appelle Il Tifone, qui est un mauvais jeu de mots sur le tifo, et puis évidemment le typhon, le phénomène météorologique, et qui s'oppose, qui attaque très durement les footballeurs du nord de l'Italie en les accusant d'être des corrompus, d'avoir toujours été avantagés, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose évidemment qui favorise la construction de l'équipe nationale. Donc on scrute évidemment avec une très grande attention la présence ou non de joueurs du centre ou du sud de l'Italie. Donc il y a cet espace-là évidemment qui joue. Pour ce qui est évidemment de la France, il y a de très grands débats. Alors dès les années 30, bon, il y a un hebdomadaire qui, à Pignon-sur-Rue, c'est Football, l'ancêtre de France Football, qui peut entrer en concurrence avec l'Écho des Sports, le Miroir du Football, etc. Le Miroir des Sports. Mais c'est surtout dans les années 60 qu'il y a cette opposition, alors qui serait un petit peu politique. Il y a une rivalité entre France Football, qui est liée à l'équipe, et puis le Miroir du Football, qui est lié au Parti communiste. Chacun défendant...
Comme le Miroir du cyclisme.
Tout à fait. Chacun défendant d'ailleurs un projet de jeu, alors qui est, peut être paradoxal, puisque la grande équipe de référence pour le Miroir du Football, c'est le Real Madrid, qui n'est pas vraiment une équipe progressiste, entre guillemets, tout à fait. Et alors que... Le Miroir du Football propose un jeu qui serait du progrès, qui serait celui de l'offensive, alors que France Football défend, lui, un jeu qui serait beaucoup plus défensif, réaliste. Et ça s'incarne, évidemment, dans des querelles de personnes et d'entraîneurs. Donc, la presse joue un rôle, évidemment, très important là-dedans.
Comme lors de la création, par exemple, du mouvement Football Progrès à la fin des années 60 et au début des années 70, en France, qui faisait la promotion d'un football qui ne serait pas obsédé par la question du but et la question de marquer des buts. On voit bien qu'il y a là deux visions différentes du même sport. Ce qui est intéressant dans cette question de la presse, Julien Sorès, c'est que la presse enjoint une équipe comme l'équipe de France de correspondre à l'image qu'elle se fait de cette équipe de France, co-construite par les joueurs, co-construite par les fédérations sûrement, mais l'équipe de France est d'abord le courage dans la première partie quand elle se crée, ensuite c'est la question de la rationalité française, de l'ordonnancement, le classicisme du jeu, puis ça sera avec on le rappelait tout à l'heure avec Paul Guéchi, le football champagne, ça sera le football offensif de 98, et on voit qu'à chaque fois, cette même équipe, sur un siècle, a eu des injonctions contradictoires, pourrait-on dire, Julien Sorès.
Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution. Alors, la presse est sans doute et a un rôle quand même très important aussi dans la formation de la représentation que l'on se fait du spectacle. Mmh. Il faut bien imaginer que au début du XXe siècle, c'est quand même aussi la presse qui forme un petit peu son lectorat la manière d'appréhender le jeu. Et donc, elle est un vrai filtre qui permet d'interpréter, de créer des catégories d'interprétation du jeu, de l'identité de jeu, de la technique. Et c'est vrai que à travers le siècle, cette presse, elle joue un rôle un petit peu dans ce sens.
Formaliseur.
Exactement. D'autant que les journalistes ont un rapport au jeu qui est souvent très étroit, puisqu'il n'y a pas de journaliste sport, il n'y a pas de formation dans les débuts de la presse. Ce sont souvent des dirigeants, des anciens joueurs. Donc, il y a une connivence très forte à l'intérieur de ce milieu. Et la presse a un rôle vraiment très important.
Mais cette presse est pour vous aujourd'hui, Paul Guéchi ou Julien Sorès, historien du sport, finalement aussi la seule source qu'on puisse avoir pour documenter le jeu, puisqu'il y avait moins d'images qu'aujourd'hui, il y avait moins de statistiques. Alors je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Non,
en tout cas, comment est-ce que vous travaillez à partir de ces sources qui sont quand même très nombreuses, celles de la presse? Il faut utiliser un filtre pour comprendre ce que le journaliste a voulu raconter?
Alors, bon, il faut voir, mais en tout cas, il y a beaucoup d'images de matchs. C'est vrai que, bon, les comptes rendus et puis les opinions des journalistes sont très importants, mais il y a quand même, donc, après quelques films sur lesquels on peut travailler, qui ont été, par exemple, diffusés dans les cinémas dans le cadre des actualités cinématographiques, il y a aussi des manuels techniques qui montrent l'évolution du jeu, qui sont produites par des anciens joueurs, par des entraîneurs, et qui, à l'échelle du XXe siècle, montrent aussi une forte évolution du jeu.
Mais ça apparaît très tôt dans
ah oui, bah,
les manuels techniques.
Les manuels techniques sont une des conditions de la diffusion de la pratique. Mmh. C'est-à-dire que il y a pas de médias. Comment est-ce qu'on se représente ce qu'est un match de football? Bah, on peut aller voir au bord des terrains, près de chez soi, et puis on peut aussi lire un manuel qui va donner les rudiments réglementaires, aussi quelques conseils d'entraînement. Et ça, un des premiers ouvrages, c'est fin 19e, par un joueur britannique qui est aussi un équipementier sportif. Donc on voit aussi le lien qu'il peut y avoir entre la diffusion de la pratique et les intérêts économiques. Et qui va être traduit donc rapidement et être un des premiers ouvrages de référence technique.
Paul Dietschy, sur ce point, c'est comment définir ou comprendre ce qu'était le jeu d'une équipe nationale à un moment donné de son histoire, par exemple. Est-ce qu'on a les moyens, en tant qu'historien, de l'approcher au plus près?
Alors, comme l'a dit Julien, à partir des années 30, il y a des films quand même qui représentent assez bien ce jeu. Par exemple, il y a un film officiel de la Coupe du Monde 1938 qui est assez remarquable, hein, et qui montre bien à la fois un jeu qui est relativement lent, mais en même temps organisé avec des différences de dispositifs tactiques. La presse, quand même, est souvent très précise sur les commentaires des matchs, au moins jusque dans les années 70-80, parce que il y a pas la télévision, il y a la radio, et donc comment appréhender finalement un match, c'est avant tout par un récit. Alors, la difficulté, évidemment, c'est d'aller au-delà de la construction mythologique. Dans l'entre-deux-guerres, on a très souvent tendance à faire référence, d'ailleurs, à la Première Guerre mondiale, à certains aspects. Hein, par exemple, la retraite sur le Piave, et lorsque, dans la presse italienne, on raconte des phases défensives. Donc, évidemment, il faut s'extraire de cela. Il faut aussi comprendre quels sont les cadres de représentation de ces journalistes, hein, à quel type de jeu de référence ils se réfèrent.
Parce que ces jeux changent quand l'équipe du Brésil arrive, par exemple. Évidemment, le cadre de référence n'est plus simplement l'Angleterre des origines, mais ça peut être aussi, ou l'Allemagne, ça peut être aussi effectivement le Brésil avec un type de jeu différent.
Alors, ce qui est remarquable, c'est que dès le début du XXe siècle, lorsque vous lisez des comptes rendus de matchs, notamment d'équipes d'Europe centrale, par exemple, eh bien, il y a des descriptions très précises d'un jeu qui se fait à passes courtes, passes redoublées, avec une très grande maîtrise technique, une très bonne répartition des joueurs sur le terrain. Donc ça, dès 1901 ou 1904, on trouve cela. Donc on voit d'ailleurs que ces identités de jeu sont quand même relativement précoces. Et puis ensuite, chaque période a ses références. Alors avant le Brésil, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, la grande référence, enfin il y a deux ou trois références, il y a l'Angleterre qui pratiquerait un jeu scientifique. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on maîtrise bien la balle, on se répartit bien sur le terrain, il y a une rationalité, une efficacité. Et puis il y a le Wunderteam qui a été évoqué dans le reportage, c'est-à-dire que cette équipe autrichienne, alors qui joue un peu un jeu stérile, fait de passes, avec des virtuoses. Alors évidemment, là on est toujours à la limite de la représentation, évidemment c'est la valse viennoise, c'est le violoniste, hein, qui exagère dans les fioritures, etc. Donc c'est ce qu'on applique souvent à Sindelar, qui est la grande vedette autrichienne de l'époque. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une très bonne représentation de la manière dont on joue. Et c'est quelque chose qui, évidemment, peut être transcrit. La difficulté, parfois, c'est la question de la violence. Hein. C'est que, en fait, on s'aperçoit que depuis les années 20, voire avant, il y a un leitmotiv, c'est qu'on se plaint de la violence qui règne sur les terrains. Chose, évidemment, qui n'est pas du tout nouvelle. Il y a quelques éléments qui peuvent être, évidemment, concrets. Bah, c'est les blessures hein, et les joueurs qui terminent leur carrière. Il y en a beaucoup dans les matchs internationaux dans les années 30.
Il y a tout de même une dimension qui vient peut-être contrer, pour terminer cette émission, contrer cette construction lente et patiente, comme on l'a décrite, des identités nationales en matière d'équipe de football. C'est la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, le mélange et la vente des joueurs, le départ des joueurs pour d'autres pays. Comment ces identités nationales de foot tiennent-elles devant la globalisation? D'abord Paul Dietschy, puis brièvement, puis ensuite pour conclure Julien Sorèze.
Alors, je crois que c'est le mérite d'une organisation qui est très décriée aujourd'hui, c'est la FIFA, qui organise ces Coupes du Monde dans lesquelles on peut voir des équipes qu'on ne voit pas d'habitude, la Corée du Nord, l'Équateur, etc., voire l'UEFA, on va voir quand même l'Islande et l'Albanie à l'Euro. Donc, Ça permet évidemment de montrer ces footballs qu'on connaît peu, qui sont parfois un peu moins mondialisés, et donc de voir des manières de jeu qui ne sont pas encore tout à fait standardisées. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que le football s'intègre bien dans la mondialisation, parce qu'il est à la fois un produit global, standardisé, et puis en même temps, c'est quelque chose qui permet d'exprimer les identités locales, nationales. Et on sait que la nation, loin de disparaître dans la mondialisation, au contraire, eh bien, elle ressurgit très largement. Et c'est ce qui fait le succès des compétitions d'équipe nationale, c'est la commercialisation finalement de la nation, et puis en même temps, un lieu où on peut exprimer, on peut s'emparer des emblèmes nationaux dans un rituel festif.
C'est ce que vous racontez dans l'ouvrage que vous avez dirigé avec Pierre Singer-Avelou, Julien Sorez, L'Empire des Sports, une histoire de la mondialisation culturelle chez Belin, Julien Sorez.
Oui, alors ce qui se passe, c'est vrai que c'est, si on reste sur le football... L'évolution du football, quand même, c'est fortement nourri de la globalisation à travers un marché de joueurs qui s'est internationalisé et des identités de clubs qui ont été un petit peu troublées par l'apport de capitaux étrangers, par la composition des équipes de plus en plus diversifiée. Et peut-être que c'est ce qui a aussi favorisé la réussite d'une identité nationale qui reste quand même avec des contours fluctuants, dans laquelle on met des choses peut-être parfois un peu controversées, mais en tout cas qui fonctionnent assez bien, comme l'a dit Paul, dans le cadre d'une compétition internationalisée, où on peut éprouver un nous face à une adversité sportive.
Merci beaucoup Julien Sorez et merci à vous également Paul Dietschy. Je rappelle Julien Sorez que vous êtes auteur aux presses universitaires de Rennes du football dans Paris et ses banlieues. C'était votre thèse, un sport devenu spectacle avec une préface de Jean-François Sirinelli. Vous êtes co-auteur de L'Empire des Sports avec Pierre Singer-Avelou, avec beaucoup d'autres auteurs. C'est chez Belin. Paul Dietschy, on peut lire avec beaucoup d'intérêt évidemment votre histoire du football qui est en poche chez Tempus Perrin. Et puis citons aussi un ouvrage auquel vous avez participé, en l'occurrence Julien Sorez, c'est le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées, avec Fabien Archambault, Stéphane Beau, William Gasparini, avec une préface de Gérard Noiriel aux publications de la Sorbonne. Tout cela sera sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos travaux sur ces questions de rapport entre le football et les nations ou le nationalisme. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Mona Bolivier et Aurélie Marseille. Nous remercions Thierry Bonan à Besançon, à Radio France, qui a accueilli dans ses studios Paul Dietschy, Alexandre Dang était à la technique avec nous à Paris et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion, laisser vos commentaires sur nos pages, mais aussi sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter avec une adresse qui pourrait être une adresse d'équipe de football, Fabrique FC, ça n'est pas le Fabrique Football Club, c'est Fabrique France Culture.